C'est parti pour un dimanche de campagne, dernière émission avant élection. La semaine prochaine, on finira de voter à cette heure-ci. Nous sommes à 7 jours exactement du premier tour de la présidentielle avec une règle bien précise à respecter ce soir encore. Le même temps de parole et temps d'antenne pour tous les candidats. On va donc faire simple et utiliser un chronomètre. Ils sont 12, ça fera donc 3 minutes 10 pour chacun des prétendants à l'Élysée. Pas de Bobineau, de Thomas Legrand, mais vous êtes bien là Thomas, bonsoir.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Pas de Olaïc Citoyen, mais vous êtes là vous aussi Jean Massier, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Avec nous également Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Claire.
Et bonsoir Marcelo Westfred, grand reporter au service politique du Parisien.
Bonsoir Claire.
Où vous suivez plus particulièrement Macron, c'est Emmanuel Macron, c'est bien
tout
ça.
Tout à fait, je confirme.
Cyril Lacarrière qu'on retrouvera pour une semaine politique coupée en deux cette semaine est à la rédaction en chef, Fred Milano à la réalisation et Benjamin Troncin à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire, bonsoir.
Alors on disait c'est une émission un peu particulière. Ce soir on découpe la tranche en 12 séquences équivalentes et votre semaine politique en deux parties avec 6 candidats dans chaque partie. Jusque-là, c'est assez simple. Alors allons-y pour la première partie de votre semaine politique.
Le vent souffle sur cette campagne présidentielle française et cette semaine, il nous a fait entendre le bruit du ressac de l'affaire McKinsey. McKinsey, c'est le nom de ce cabinet de conseil américain qui parasite la campagne du président sortant. En meeting cet après-midi à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas privé de taper là où ça fait mal.
Le seul McKinsey a empoché le salaire annuel de 1200 fonctionnaires. Où est la raison ? Où est le bon sens ? Oui, c'est suspect d'entendre dire qu'on a donné 4 millions pour réformer les APL.
McKinsey qui fait du conseil pour l'État français, McKinsey qui pratique l'optimisation fiscale, en somme le parfait exemple de tout ce qu'il ne faut plus faire, selon Fabien Roussel, hier en meeting à Lyon.
Oui, c'est pas bien, mais c'est légal et on ne peut pas faire autrement. Eh bien, nous disons-nous que la République française, c'est la justice fiscale. C'est ça, la France des jours heureux.
Le vent souffle sur cette campagne présidentielle et cette semaine, il a confirmé la forte hausse de Marine Le Pen dans tous les sondages. Ça n'a évidemment pas échappé à Emmanuel Macron. Il était en meeting hier à Paris, le premier de sa campagne et probablement le seul. Le chef de l'État sortant a directement attaqué, sans la nommer, la crédibilité de celle qui fait désormais office de principal adversaire.
Avoir des responsables politiques raconter n'importe quoi sur le Covid, au risque de mettre la vie de nos compatriotes en danger. Nous nous sommes habitués, oui, à laisser des candidats se dire patriotes, tout en faisant financer leurs projets et leurs partis par l'étranger.
Être l'objet de toutes les attaques d'Emmanuel Macron ne semble pas déranger la candidate du Rassemblement National. C'est presque si cela ne l'amuse pas. Jeudi soir, sur France 2, Marine Le Pen se moquait même de son adversaire.
Je trouve assez étonnante cette fébrilité du président candidat qui...
Pourquoi fébrilité ?
Tient des propos, mais enfin pardon, ces propos n'ont ni queue ni tête. Enfin, j'arrive même pas à les comprendre moi. Ça n'a ni queue ni tête.
Le vent souffle sur cette campagne et c'est un sacré vent contraire qui souffle pour les deux candidates des deux grands partis français. Peut-être qu'il faudra bientôt dire deux anciens grands partis français. D'un côté, Anne Hidalgo, elle était cet après-midi en meeting à Paris. La candidate socialiste a appelé ses soutiens à faire mentir le destin funeste que lui promettent les instituts de sondage.
Ensemble, nous pouvons démentir ces sondages partiels, partiaux. Ensemble, je vous le dis, nous pouvons conjurer le sort annoncé de cette campagne qui a ouvert aussi tous les micros à la haine des autres.
À quelques kilomètres de là, Valérie Pécresse avait réuni ses troupes porte de Versailles et pour la candidate LR, parfois donnée sous la barre des 10% d'attention de vote, l'heure est aussi à la mobilisation. Du coup, c'est une Valérie Pécresse révolutionnaire qu'on a entendue ce dimanche à Paris.
Révoltez-vous contre les faux-semblants! Révoltez-vous contre cette démocratie atrophiée, abîmée, dans lequel le fond est sacrifié à la forme, où les qualités pour séduire valent davantage que les qualités pour agir.
Un petit mot d'Ayam pour achever cette première demi-douzaine de candidats. La révolution est sur les rails et on prie, ça ne sert à rien de nous demander son prix. Il ruine tout pendant que nous, on construit.
Et poète avec sa mère, c'est Cyril. On vous dit à tout à l'heure pour la deuxième partie. Allez, on va commencer avec Emmanuel Macron, premier et sans doute dernier grand meeting de campagne pour le président. Hier à Nanterre, à une semaine du premier tour, Marcelo Westfred, c'était pas trop tard ?
Si, puisque c'était tard, c'était une option extrêmement tardive, puisqu'on est dans le temps de ce qu'on appelle l'égalité du temps de parole, c'est-à-dire que les médias, quasiment les médias audiovisuels, il y a plusieurs chaînes d'information continue qui n'ont pas passé carrément ce meeting, donc c'était un choix d'attendre le plus longtemps possible pour rester en surplomb. C'est un choix peut-être que certains commencent en ce moment à regretter.
Cécile Cornudet, qu'est-ce qu'on va en retenir de ce meeting d'Emmanuel Macron ?
Comme il n'y a eu qu'un meeting, comme disait Marcello, il y avait tout, il a voulu tout mettre dans ce meeting. Ça a été très très long, donc il a voulu faire le bilan, il a voulu présenter son projet, ou en tout cas corriger l'impression qu'on avait eue de son projet. Il a voulu commencer à installer le duel de second tour en attaquant Marine Le Pen. Donc, peut-être ça, le duel avec Marine Le Pen, mais c'était quand même très fouillis.
Une ligne européenne clairement revendiquée, Thomas Legrand, un appel à ceux qui l'ont pas encore rejoint, et même un slogan piqué au NPA, ou plutôt à la NCR. On est vraiment dans le en même temps.
On est dans le en même temps le plus large possible, mais on est dans le en même temps trop tard. Parce que, comme l'a dit Marcello, il ne peut plus faire campagne. C'est-à-dire, dès qu'il dit quelque chose, c'est même contre-productif, parce qu'il faut passer 10 autres personnes ou 11 autres personnes qui ne parleront que lui. Donc, à la limite, il faudrait mieux qu'il se taise. Donc, c'est complètement... Il aurait dû faire campagne plus tôt, mais il a joué sur le prestige présidentiel. On oublie tout le temps les présidents. Ils l'ont tous fait. Même De Gaulle, en 65, a dû finalement finir par faire campagne. Les présidents pensent que le prestige, ça se suffit à soi-même. Maintenant, ça se recharge. Le prestige en démocratie, ça se recharge par des élections et des campagnes.
Alors, Marcel Westphal disait que c'était compliqué parce que, évidemment, les télés n'ont pas pu diffuser forcément en direct comme elle l'aurait souhaité. C'est passé sur les réseaux sociaux, Jean Lassier, mais avec quel succès ?
Une campagne numérique d'Emmanuel Macron très pauvre, tardive elle aussi, mais surtout très pauvre, loin des fioritures, loin des moments de fulgurance. On a une web-série sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Le Candidat, une web-série intimiste dans laquelle il essaye de se présenter et de fendre l'armure.
Tous les vendredis soirs ?
Tous les vendredis soirs.
C'est plutôt pas mal fait.
C'est plutôt bien fait, mais les audiences s'érodent vidéo après vidéo, donc on n'en retiendra pas grand-chose. Et il a lancé, seul petit grain de folie, un serveur Minecraft, un jeu vidéo communautaire, assez pauvre, pas très intéressant, et ça n'a servi qu'à faire des articles dans les journaux, et ça a marché. La preuve, je suis en train d'en parler.
Effectivement. Marcel Westphal, qu'est-ce qu'on peut dire pour Emmanuel Macron pour la semaine qui reste évidemment, les sondages sont là, et il y a le feu au lac, on peut dire ça ou c'est exagéré ?
C'est encore exagéré, mais disons que la tendance dans les sondages est baissière et régulière, qu'il est maintenant sur la défensive, là où son point fort c'était d'arriver à imprimer et à faire le débat autour de lui. Il va faire maintenant quoi ? Il va faire des médias, il va faire sans doute deux déplacements, sauf que les reprises seront limitées.
Cécile Cornudet, je précise que cette musique, on va l'entendre à chaque fois pour nous faire signe qu'il faut se presser.
Comme il n'a pas pu faire de campagne de premier tour, il fait une campagne de second tour avant le premier tour, ce qui est quand même assez dangereux parce que ça installe aussi son adversaire. Donc c'est un peu autoréalisateur et c'est le risque.
Thomas Legrand, le mot de la fin, c'est fini. Malheureusement, ce sera pour le prochain candidat qui est Marine Le Pen, qui est effectivement celle qui peut, elle peut battre Emmanuel Macron.
Ah, mais aujourd'hui, on peut dire que dans 3 semaines, Marine Le Pen peut être présidente de la République. C'est tout à fait possible. Marcello Westphal disait qu'il n'y avait pas le feu au lac pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a le feu au lac, là. Il y a le feu au lac. Le 12 mars, elle était à 40%. Elle est à 47% aujourd'hui. Vous pouvez vous amuser à poursuivre les courbes. On sait que les courbes s'accélèrent généralement elles ne changent pas de direction. C'est rare. Elles s'accélèrent. Je pense qu'il y a vraiment le feu au lac pour qui vous savez, parce que je ne dois pas citer son nom.
Non.
On parle de Marine Le Pen qui fait une campagne, donc une campagne où elle arrondit tout, où elle est passée de la dédiabolisation, ça c'était il y a longtemps, maintenant à la normalisation et même à la banalisation. Voilà. Alors les autres devront rappeler son côté extrémiste qui existe toujours.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Cécile Cornudet, qu'elle a eu raison d'axer sur le pouvoir d'achat et puis d'entrer en campagne très tôt. Il faut
très
quand même
tôt,
se souvenir qu'elle a commencé. C'est, je crois que c'est elle qui a commencé le plus tôt.
Oui. Il y a presque 2 ans, je crois, très tôt, et sur le pouvoir d'achat. Donc on peut dire qu'il y a eu un effet de la guerre en Ukraine, drapeau qui a dans un premier temps bénéficié à Emmanuel Macron, mais c'est fort possible que le second effet, la seconde lame du rasoir, ce soit un effet qui bénéficie à Marine Le Pen parce qu'elle a parlé comme ça du pouvoir d'achat. Elle a fait une bonne campagne et surtout elle a su surfer sur ce climat très particulier de cette campagne complètement dépolitisée où on a l'impression que ça n'a intéressé personne, et c'est aussi pour ça qu'elle peut être élue, parce que elle a réussi à en faire un non-événement pour l'instant.
Et puis alors, on ne cite pas les autres candidats parce que sinon c'est très compliqué, oui. Marcel Westphal, mais peut-être que certains, et notamment un candidat, contribuent à la dédiaboliser encore plus. Et ça, oui. Ça a joué.
Oui, incontestablement. C'est-à-dire que les thèses radicales à l'extrême droite, elles n'étaient pas chez elle. Au contraire, elle prenait appui de cette rivalité pour dire, moi, pour moi, par exemple, l'islam et l'islamisme, c'est pas la même chose. Elle marquait sans arrêt ces différences, son recentrage. Et parallèlement, elle a fait une campagne de proximité, assez peu de meetings en réalité, et puis beaucoup de choses un peu intimistes. J'aime les chats, je vis avec une coloc à la Selle Saint-Cloud, j'ai élevé seul, même si c'est pas tout à fait exact, Marion Maréchal quand elle était petite, donc c'est très difficile ce qui m'arrive, etc. Elle a humanisé son discours.
Jean Massier.
Oui, je vais reprendre le terme de Thomas Legrand. Banalisation, c'est banal. Sa campagne numérique était finalement assez tristoune. C'est pas elle qui était l'élément disruptif de cette campagne. On sent un Rassemblement National qui essaye de rentrer dans le rang au point de faire une campagne numérique finalement assez pauvre. De toute façon, son électorat est assez peu sensible aux éléments numériques de sa campagne. Donc, elle a eu raison de pas miser plus que ça là-dessus.
Qu'est-ce qu'on peut dire du fameux front républicain parce que c'est ça dont on va commencer à parler dans les jours qui viennent. Thomas Legrand,
il a vécu, je ne sais pas s'il a vécu, je crois qu'il va muter, il peut muter, mais on va en reparler tout à l'heure avec un autre candidat. Je pense qu'il peut muter, il peut passer au premier tour, c'est une possibilité, on va en reparler tout à l'heure avec un autre candidat.
Marcel Westphal.
Elle dispose de réservoirs de voix, c'est ça qui est nouveau, là où son possible candidat en face pour le second tour en a moins.
Ses adversaires ne pensent que c'est difficile de l'avoir sur la diabolisation. Donc là, on voit bien s'installer l'idée que sur l'économie, elle est trop dispendieuse et qu'elle pourrait faire...
Et c'est fini, la musique s'est arrêtée. Je suis infiniment désolée, Cécile Cornudet.
On a l'impression d'être des candidats.
C'est comme ça, on est obligé. On passe à Jean-Luc Mélenchon qui était donc à Toulouse cet après-midi, place du Capitole. Il s'est moqué d'Emmanuel Macron à Nanterre. Il a dit la dernière fois que je suis allé à l'Arena, c'était pour voir les Pink Floyd et c'était moins planant. Là, cet après-midi, c'était le groupe Les Motivés qui a mis de l'ambiance. Alors, une chose intéressante, il s'est adressé aux indécis qui n'aiment pas son caractère. Il a dit quoi que vous pensiez de ces conversations stupides sur mon caractère, le pays est en état d'urgence. Ça peut être un argument, ça, Thomas Legrand?
Je pense que ça peut être un argument. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans une situation quasiment historique. On va voir s'il est à la hauteur de sa situation quasiment historique. Il se trouve que si on regarde les courbes, si on regarde ce dont on parlait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon peut être la seule personne qui peut faire barrage à Marine Le Pen avant le deuxième tour, bien sûr, et qui est un peu en capacité. Il est encore un peu loin. Mais pour ça, il faut qu'il séduise des électeurs d'habitude écologistes ou sociodémocrates qui ne l'aiment pas, qui pensaient pas jamais voter pour lui à cause de son rapport à la démocratie libérale, à la Russie et à tout ça. Est-ce qu'il saura leur parler? Il commence à leur parler en leur disant, attendez, je suis énervé comme ça, mais il faut pas croire, je suis aussi sympa.
Sur le web.
Jean-Luc Mélenchon, il a une communauté depuis longtemps et ça paye. L'investissement qu'il fait depuis des années avec ses vidéos sur YouTube, ses lives sur Twitch, etc. Ça commence à fonctionner. Il a beaucoup d'internautes qui font partie d'une véritable communauté. Et ça, on sait que ça marche très bien sur Internet. Et aujourd'hui, je pense qu'il en recueille les fruits. Beaucoup de jeunes sont très mobilisés en sa faveur sur Internet.
Cécile Cornudet, on entend une petite musique. Évidemment, il essaye d'appeler au vote utile, mais il veut pas le dire parce que ça se fait pas.
Il est politique
de son côté. Il va pas s'abaisser à.
Mais c'est quand même un peu.
Il s'est réveillé de gauche. La grande différence avec 2017 où il ne parlait plus de la gauche, là il dit je suis de gauche. Donc c'est sous-entendu le vote utile. Sinon il a réactivé ce qu'il savait faire le mieux. Et c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, on a le sentiment que les candidats à expérience ont marqué des points. Ces meetings, il a vraiment fait quelque chose avec ces meetings. Il a réinventé le genre. Il y avait du monde. Il n'y avait pas beaucoup de candidats où il y avait du monde dans les meetings. Et il y a son éloquence qui marche toujours. Donc il a fait une belle campagne.
Et l'affaire McKinsey Marcel Westphal, c'est du pain béni pour
Il a développé tout à l'heure à Toulouse tout un discours, en gros, pour dire que l'État devait remonter en force et que les fonctionnaires faisaient bien mieux le travail, que c'était pas besoin d'aller donner ça à des cabinets. Donc il fait d'une pierre deux coups. Il y a un tiers d'indécis, selon les sondages. Donc un tiers d'indécis, ça lui laisse espérer qu'il peut combler le retard pour pas se retrouver dans cette maudite troisième place. Il avait été quatrième de pas grand chose en 2017. Donc c'est ça son enjeu. Et ça reste quand même le meilleur tribun, ce qu'il a fait tout à l'heure à Toulouse devant une place du Capitole pleine, c'est devant les autres.
Thomas Legrand.
Oui, non mais je pense que là
le vrai match de la semaine qui vient,
le vrai match c'est Le Pen Mélenchon. Et comment le faire? Est-ce qu'il faut qu'il se radicalise pour mobiliser ses troupes ou est-ce qu'il faut qu'il l'élargisse?
C'est le challenger du second tour. C'est le challenger, non pas du président de la République, mais de Marine Le Pen. Donc il est en position pour éventuellement arriver au second tour. Et ça, ce serait véritablement historique. On verra.
Je crois que la musique va se terminer.
C'est flippant, votre musique.
Ben oui, mais j'ose pas donner la parole à qui que ce soit. Ben voilà, vous voyez, c'est fini. Ça aurait été dommage de s'arrêter au milieu d'une phrase. On passe à Valérie Pécresse, qui était donc en meeting, elle, à Paris, au Palais des Sports de la Porte de Versailles, où donc le nom de Nicolas Sarkozy a été sifflé. Alors, je voudrais qu'on entende ça. C'était quand Yann Verling était en train d'énumérer le bilan de la droite en matière écologique. On ne peut pas entendre ce petit son du meeting de Valérie Pécresse. Je croyais que c'était possible. Oui, non, sans opinion.
Nicolas Sarkozy.
Voilà, non, non.
Ah voilà, c'était juste le son, c'était
oui,
Nicolas
c'était
Sarkozy.
C'était juste ça, par rapport à Nicolas Sarkozy. Non mais la pauvre, elle attend toujours le soutien. Alors je sais, vous Thomas Legrand, vous nous avez déjà expliqué qu'il fallait qu'elle arrête d'attendre le soutien.
Non seulement ça, elle aurait dû le dire, je ne veux pas le soutien de Nicolas Sarkozy. Il faut s'émanciper quand on est, il faut être soi-même et s'émanciper. Il faut tuer un père. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il a réussi en tuant Jacques Chirac.
Pour en revenir à Valérie Pécresse, est-ce qu'on peut dire, Marcel Ovestred, que comme depuis le début, elle est coincée entre la droite et l'extrême droite, c'est ça son problème depuis toujours dans cette campagne?
C'est le problème de fond, c'est le problème structurel, elle n'aura pas réussi à en sortir, et plus ajouter à ça des problèmes de forme, son meeting du Zénith avait été une catastrophe, depuis elle a courageusement quand même avancé avec le vent de face, mais vous disiez là, tuer le père, en même temps, elle a fait cet après-midi un meeting où, porte de Versailles à Paris, qui est quand même un lieu historique pour tous les électeurs de droite, c'est là où Nicolas Sarkozy, justement, avait lancé son offensive en 2007, donc c'est difficile de se défaire de son passé.
C'est quoi l'enjeu pour elle aujourd'hui, Cécile Cornudet? C'est d'arriver, si possible, devant Éric Zemmour?
Oui, pour sauver les meubles pour l'après, parce qu'on sent bien que c'est la grande recomposition de la droite qui va commencer derrière. Si elle est trop basse, vous aurez d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté Éric Zemmour, qui vont piller LR.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Valérie Pécresse dans cette campagne? On a dit qu'elle a été coincée. Elle sort aussi d'une primaire, et peut-être que c'est quelque chose qui fatigue les candidats. Il y en a d'autres qui sont concernés.
Ça l'a fatiguée, mais d'un point de vue numérique, elle est l'héritière de la malédiction des Républicains entre Sarkozy en 2012 et François Fillon en 2017. C'est que c'est pas fun, c'est pas frais.
Il y avait les libs
de prise de risque. Les libs, ça c'était 2007.
Ah, 2007.
Justement, on est dans une autre époque des Républicains qui assument quasiment ouvertement de s'adresser à un électorat âgé qui s'en fout d'Internet. Et donc, on ne retiendra qu'un podcast qu'elle a lancé, qui s'appelle Valérie raconte Pécresse, qui est plutôt pas mal pour les militants, mais qui crée pas une adhésion folle pour les autres. Donc voilà, elle y arrivera pas, je pense, grâce à Internet.
C'est et du coup, elle n'a pas pu répondre à une campagne extrêmement offensive des internautes zémouriens, pour le coup, qui l'ont transformée en personnage ridicule. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de forme dans certaines interventions, dans son meeting du Zénith, mais elle a été complètement caricaturée et elle n'a pas su y répondre.
C'était pas la bonne candidate, Marcel Ovestred, pour les Républicains, enfin pour la droite, puisque c'est plus large que ça.
Là, on peut pas comparer par rapport à d'autres candidats qui sont pas partis. Mais c'est vrai que par exemple dans le camp Macron, il craignait surtout Xavier Bertrand. Il pensait que lui pouvait faire une synthèse avec un électorat populaire. Après, c'est le problème de la primaire. Cette primaire, on voit bien que c'est la fausse bonne idée. À chaque fois, il en sort des candidats qui ensuite ont de la peine à faire campagne.
Et pourquoi justement ils ont de la peine à faire campagne?
Parce qu'une primaire vous oblige à rassembler votre camp, à travailler parfois avec des gens qui sont pas sur votre ligne et à vous engager sur une ligne qui s'est décidée par rapport à vos militants et non pas vos supporters.
Voilà, une primaire, effectivement, souvent, ça épuise avant même le début de la compétition. Bravo, Marcel Ovestred. C'était juste terminé, juste à point. On en vient à Anne Hidalgo. Alors là,
elle est épuisée sans qu'il y ait eu de primaire. Toutes les configurations sont bonnes dans cette...
Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un chemin de croix?
C'est un chemin de croix. Comme pour la candidate que je ne vais pas nommer, parce que sinon c'était la candidate d'avant. Comme pour cette candidate, les deux représentants des partis dits de gouvernement, c'est paradoxal, hein, c'était les partis de gouvernement, c'est justement ceux qui ne sont plus de gouvernement, sont finalement laminés. Et c'est étrange, parce que je suis persuadé que si demain il y avait des municipales ou des régionales ou des départementales, LR, LPS les gagneraient encore. Il y a vraiment deux niveaux maintenant. Une campagne nationale qui est animée par des partis qui finalement qui ne sont pas enracinés, hein, les trois partis. Et puis Anne Hidalgo subit ça de plein fouet. Et je crois qu'elle subit surtout le fait de ne pas avoir su, et ça c'est pour les électeurs sociodémocrates et écologistes importants, de ne pas avoir su ces cinq dernières années créer quelque chose avec les écologistes et offrir une offre politique unique et nouvelle. écologiste et socialiste à la fois.
Et puis alors évidemment, il y a effectivement le fait qu'un certain nombre de gens sont partis chez Emmanuel Macron.
Oui,
là, tout à l'heure, elle a dit aux électeurs de gauche, tentés une fois de plus par le vote Macron, ils ne vous calculent même pas. C'est ce qu'elle leur a dit lors de son meeting là tout à l'heure à Paris. Ça reste effectivement un problème, ce paysage politique pour le PS.
Oui, parce qu'on voit bien que le vote utile à gauche, c'était en partie Jean-Luc Mélenchon, mais aussi en partie Emmanuel Macron. Elle a jamais réussi finalement à faire des événements de campagne. Dès son entrée, elle a annoncé le doublement du salaire des profs. Elle s'était inspirée de ce qu'avait fait François Hollande et ça avait marché pour lui en faisant quelque chose de très lourd pour les profs. Mais là, personne n'y a cru. J'ai toujours pas compris pourquoi début janvier elle est venue sur TF1 pour dire on va faire une primaire et puis finalement quand la primaire populaire s'est installée, elle a dit j'y suis pas. Donc elle était très difficile à suivre et il n'y a rien qui a vraiment marqué.
Et sur les réseaux sociaux,
sur les réseaux sociaux, elle était dans la retenue. C'est là aussi encore très classique, un vieux parti qui c'était pas Ségolène Royal en 2007 qui avait un côté je casse la baraque grâce à Internet. Là, au contraire, c'était dans la retenue. Elle a été refroidie par un bad buzz en novembre dernier sur Internet. Elle a fait une courte vidéo dans une gare où elle se plaignait de l'absence de personnel pour vendre des tickets. Elle s'en était pris plein la gueule à ce moment-là de la part de beaucoup d'internautes et à mon avis, ça l'a définitivement vaccinée. Non, pas de campagne numérique, on va y aller tranquille.
C'est un problème Hidalgo ou c'est un problème Parti Socialiste, Marcel Ovesfred ? Est-ce que le PS peut disparaître ?
Les deux, puisque la direction du PS et Hidalgo ne se sont pas vus depuis décembre dernier. C'est quand même Olivier Faure et Hidalgo, c'est quand même un petit souci. Vous verrez demain dans nos colonnes, il y a un nouveau parti qui se forme de transfuges du Parti Socialiste qui s'appelle Fédération Progressiste, qui vont aller rejoindre Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que
il y a qui là-dedans ?
Il y a des anciens ministres. Si, il y a des anciens ministres socialistes comme Thierry Repentin, Juliette Méadel, François Rebsamen, etc. Bref, ça veut dire que c'est un problème pour le parti socialiste qui va continuer à se disloquer.
Effectivement, je ne sais pas si je peux encore passer la parole à quelqu'un. Il y aura peut-être des conséquences aussi à la mairie de Paris.
Peut-être.
Ça va laisser des traces aussi.
Ça va être compliqué parce qu'elle est partie des pas très,
bah c'est fini.
Pas très bien en point, mais bon.
Merci beaucoup. C'est compliqué. On en arrive.
On en arrive à. C'est dur.
Oui, c'est compliqué. On en arrive à Fabien Roussel, qui était lui aussi dans la première partie de cette semaine politique. Il était hier à Villeurbanne. Il a répété qu'il fallait voter pour ses convictions. Il a répété qu'il était le candidat des jours heureux. C'est quelque chose qui marche, ça, sur les réseaux sociaux.
Ce qui a bien marché sur les réseaux sociaux pour Fabien Roussel, ça a été son tournant gastronomique. À partir de janvier dernier, une petite phrase sur un plateau télé s'est transformée en élément de campagne qui est devenu le marqueur de son identité politique. Et ça, sur Internet, ça a permis de le différencier. Ce qui était son enjeu vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, il a réussi à se différencier et ça a pu peut-être marquer mieux ça, son identité politique. On verra les résultats qu'il en tire, mais voilà, un bad buzz peut finalement retourner une campagne.
C'est la surprise de cette campagne à gauche,
oui,
Cécile Cornudet,
Fabien Roussel. Oui, que le Parti communiste fasse mieux dans les sondages que le PS, c'est vrai que ça, on ne s'attendait pas à ça. Il a réussi à créer une tonalité et peut-être qu'il a eu de la chance avec ses positions pro-nucléaires. À un moment, ça faisait vraiment la différence avec Jean-Luc Mélenchon, mais à un moment où l'opinion se retournait et commençait chez certains à se dire le nucléaire, c'est peut-être une solution au problème climatique.
Et sinon, pour le reste, Marcel Ovesfred, il reste sur les fondamentaux du Parti communiste, salaire, partage des richesses, lutte contre l'évasion fiscale.
Oui, semaine de 32 heures, permis de alors il y a des petites originalités, permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans, il y a des choses comme ça. Il a fait une bonne campagne sur la tonalité, il a eu un succès d'estime, mais attention, parce que moi je me souviens de la campagne des européennes, on disait la même chose de Yann Brossa, qui portait les couleurs du PCF, et finalement il a fait 2,5%, donc on peut impressionner, mais ensuite au moment où on glisse un bulletin dans l'urne, c'est autre chose.
Cette histoire de viande est extraordinaire, parce que ça l'a lancé, alors que ce qu'il dit, c'est qu'il faut manger moins de viande, mais de la meilleure viande et de la viande française. Donc il dit exactement, j'allais dire le un candidat écologiste dont le nom commence par J. Et donc c'est extraordinaire d'avoir quand même réussi à se différencier là-dessus. Maintenant, pour lui, il va se passer quelque chose dans les jours qui viennent, la pression du vote utile. Et il y a cette tension qui va y avoir dans tous les esprits des électeurs de gauche. Est-ce que je vote pour mes convictions ou est-ce que je vote utile? Est-ce que je vote? Est-ce que je suis un électeur stratège? Pourquoi il y aurait que les candidats qui auraient le droit d'être stratèges? Les électeurs aussi ont le droit d'être stratèges. On a maintenant les informations avec les sondages. On critique beaucoup les sondages, mais ce sont des éléments d'information et on prend en compte les rapports de force des uns des autres pour pour voter, c'est un sujet central dans l'élection présidentielle. Donc il va devoir répondre à
ça. En tout cas,
ça.
Il a sorti le PC de sa torpeur, enfin de son inexistence même.
Oui, mais il pourrait aussi devenir le Taubira de la gauche de comme de 2002. Vous savez, on accuse Christiane Taubira d'avoir empêché
la qualification de
là, ça serait pas l'élection parce que personne ne croit à l'élection à la présidence de la République de un autre candidat de gauche, mais au moins sa présence au second tour. Il pourrait porter ça sur les épaules. Il peut se passer des choses aussi.
Il peut se passer des choses. Et puis pour les législatives,
il a un enjeu, c'est de sauver son groupe à l'Assemblée nationale. Et ça, il va devoir le négocier assez sévèrement.
Et Mélenchon ne va pas lui faire de cadeau parce qu'il n'est pas content de la campagne de Roussel. J'ai parlé de Mélenchon, pardon.
Vous êtes pardonné, Cécile Cornudet. Il est 18h35.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Chose promise, chose due, on en arrive à la deuxième partie de votre semaine politique, Cyril Lacarrière.
Figurez-vous que le vent souffle toujours sur cette campagne et cette semaine, eh bien, ce vent nous a apporté des flocons. Un 1er avril, c'était inattendu, mais c'était aussi un excellent argument électoral pour Yannick Jadot.
Alors pourquoi faut voter écologiste? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la météo, elle est totalement fracassée par le dérèglement climatique. Le seul vote pour sauver notre avenir, c'est le vote écologiste.
Mais l'écologie n'est pas l'apanage des écologistes. Justement, l'extrême gauche aussi s'est emparée de ce sujet. Nathalie Arthaud monte au créneau et elle met en garde.
Moi, je pense avoir le programme le plus conséquent en matière écologique. Pourquoi ? Parce que je suis précisément pour demander des comptes aux plus grands pollueurs, à ceux qui saccagent la planète, à toutes ces multinationales qui ont une ligne de conduite. C'est je fais mon fric et après moi le déluge.
Le vent souffle sur cette présidentielle et il nous fait entendre de drôles de bruits. Ce qu'on peut comprendre quand on parle d'une campagne qui peine à démarrer, mais aussi le bruit des attaques contre les journalistes, coupables tout désignés d'une campagne atone.
Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis un politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant.
Et lorsqu'ils ne sont pas lâches, comme l'affirme Jean Lassalle, sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi, ils sont malhonnêtes. C'est en tout cas ce que pensait Éric Zemmour lundi au lendemain de son meeting au Trocadéro. Le candidat d'extrême droite n'avait pas digéré qu'on lui rappelle les Macron assassins scandés par ses supporters.
Vous savez, j'ai été un journaliste pendant 30 ans. Et pendant cette campagne, et en particulier avec ce meeting, je comprends pourquoi les gens détestent les journalistes. Je le comprends maintenant.
Les Français se méfient des politiques, les Français se méfient des médias, les politiques accusent les médias. À une semaine du premier tour, l'ambiance est lourde entre les candidats. Nicolas Dupont-Aignan accuse d'ailleurs Emmanuel Macron de se cacher derrière l'actualité internationale.
Il y a une instrumentalisation de cette crise ukrainienne pour effacer la présidentielle française. Et moi, je veux qu'on parle des problèmes des Français. Il l'a complètement instrumentalisé, d'ailleurs ça ne marche plus. Les Français commencent à en avoir assez.
Dans ce grand bazar, pour savoir qui sera calife à la place du calife, Philippe Poutou, lui, a une autre idée, faire la révolution, tout simplement. Et la première des révolutions, elle est intellectuelle, elle consiste, pour le candidat à l'Élysée, à ne pas du tout se voir à l'Élysée.
Pas la peine de faire comme si je pourrais y être un jour, je n'y serai pas. Quand on dit qu'on veut pas le pouvoir, c'est une façon de parler, on veut pas la fonction présidentielle parce qu'elle est antidémocratique, mais on veut bien qu'il y ait une société où ce soit la population qui ait le pouvoir réellement.
Ce ne serait donc
et donc
une
on est
campagne
pour une démocratie directe, on est pour l'autogestion.
Voilà, pour conclure, permettez-moi cette métaphore sportive signée Nino. J'ai la balle, je suis tout près du but, mais je fais la passe, j'ai l'esprit d'équipe.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Le vent souffle toujours, rassurez-nous.
Bien sûr.
Voilà, ça me rassure. Allez, on va commencer par Philippe Poutou, figurez-vous. On va les prendre dans cet ordre-là. Vous l'avez entendu là, Thomas Legrand, il est comme vous, il est contre
Philippe Poutou est comme moi.
Comme le fait d'élire un président.
Il
me semble me souvenir que vous avez...
J'ai écrit un livre qui s'appelle « Arrêtons d'élire des présidents ».
Vous voyez, il fustige la fonction présidentielle elle-même.
Moi, c'est le mode d'élection. Non, mais c'est pas qui m'embête, c'est pas le président. Mais oui, Philippe Poutou, en fait, en tant que trotskiste, c'était un des deux candidats trotskistes, considère que la vraie démocratie et la vraie façon de changer les choses, c'est les luttes quotidiennes, c'est participer à toutes les grèves et tous les mouvements sociaux. Et l'élection présidentielle, c'est simplement une période d'exposition, de surexposition, où par exemple Philippe Poutou peut avoir 3 minutes 30 commentées par 4 grands journalistes aujourd'hui, avant une musique terrible. Et ça, c'est quelque chose qui est utile pour
pour dire qu'il n'y a pas simplement, il n'y a pas simplement l'élection, il n'y a pas simplement cette course de petits chevaux. Il y a aussi les luttes, comme ils disent.
En tout cas, il dit des choses qui sont reprises, y compris par le président de la République, puisque hier en meeting, Emmanuel Macron a dit « Nos vies valent plus que leurs profits », en gros, hein, en reprenant un slogan de l'époque de la LCR, d'Olivier Besancenot, Marcelo Westfred. Il y a plagiat, a dit Philippe Poutou. Il a raison.
Oui, oui, il a raison. Et d'ailleurs, le candidat que vous citez, Emmanuel Macron, il a fait d'autres emprunts à Mitterrand et à d'autres. Donc, on voit bien l'idée un peu de dépassement. Bon, c'est un peu une grosse ficelle. Poutou, effectivement, il avait besoin de débats et les débats ont peu eu lieu pour pouvoir à la télévision exprimer ses idées. Donc, j'imagine qu'il aurait une frustration importante, d'autant plus importante qu'il a 55 ans. Et il l'a dit, eux, ils sont pour la retraite à 60 ans. Donc, il ne se représentera pas à la prochaine présidentielle.
Sachant qu'il en est à la troisième, quand même, candidature. À quoi sert une candidature comme la sienne, Cécile Cornudet?
Populariser ce qu'il dit. Il a un message anticapitaliste. Il veut réquisitionner des pans entiers de l'économie, toute l'industrie, c'est assez traditionnel. On voit que de campagne en campagne, il est plus à l'aise. Il est presque un personnage familier, je trouve, maintenant de nos campagnes présidentielles. Sympathique, il fait des petites réunions publiques, des petits meetings. Mais c'est vrai que c'est grâce à Emmanuel Macron et sa reprise d'hier qu'on a surtout parlé de lui.
Parce que là, cette année, il n'y a pas eu vraiment de moment marquant dans sa campagne, comme il y avait eu à la dernière présidentielle.
Et oui, justement, Philippe Poutou a été privé de son moment de gloire qui a été 2017, ce fameux débat télévisé avec les autres candidats où il avait distribué des mandats à tous les autres, ce qui avait beaucoup marqué les citoyens et notamment les internautes. Philippe Poutou bénéficie encore aujourd'hui d'une forte affection de beaucoup d'internautes anti-système qui l'aiment beaucoup, qui lui donnent des petits surnoms affectifs. Il va pouvoir mobiliser un vote de rejet anti-capitaliste, anti-système en réalité.
Il a déjà un nom de petit surnom affectif.
Oui.
Pardon, Poutou, c'est déjà un nom de Poutou.
Oui, mais son surnom sur Twitter, c'est Bébou. Voilà, sachez-le.
Oula, donc on en apprend des choses ce soir. Sur son parcours, Thomas Legrand, il n'a pas commencé à lutte ouvrière.
C'était un ouvrier. C'est un ouvrier.
Marcelo Westfred.
Non, juste sur la fin de son parcours, sachez qu'il est inscrit maintenant à Pôle emploi parce qu'il était en congé de reclassement qui vient de prendre fin pendant la campagne. Et donc, la campagne se termine pour lui dans quelques jours et il va chercher du boulot.
À France Travail.
Et en attendant, il est. Oui, évidemment, ça va changer de nom. En attendant, il est élu local aussi, Philippe Poutou. Nathalie Arthaud, troisième campagne pour elle aussi. Elle est au Zénith à Paris aujourd'hui, pour l'instant.
À la salle du Zénith, c'est pas une image.
À la salle du Zénith.
Pas vraiment au Zénith dans les sondages.
Qu'est-ce qu'on peut dire de sa campagne?
Alors c'est une autre, c'est l'autre version du trotskisme. En France, on a cette chance, disons. En tout cas, cette particularité.
Il faudra peut-être qu'on nous explique effectivement un jour pourquoi il y a ces deux tendances.
Il y a deux tendances. C'est historique, ça date de. Lutte ouvrière, c'est pas le vrai nom d'ailleurs de ce parti. Lutte ouvrière est née pendant la guerre de 40 ou et en 46, alors que le NPA, qui était la LCR, c'est juste après mai 68, et ça a été voilà. C'est deux versions du trotskiste. Et lutte ouvrière, c'est beaucoup plus marxiste-léniniste. C'est un fonctionnement interne très très rigide. Certains disent sectaire. J'ai dit ça dans un papier. Je me suis fait engueuler par Nathalie Arthaud le lendemain, mais c'est normal. C'est une militante sincère et qui n'aime pas qu'on dise ça. Mais c'est vrai que lutte ouvrière, bon, avait pas cette image-là avec Arlette Laguiller qui était devenue aussi très familière des Français. Six campagnes entre 74 et 2007. Je pense que Nathalie Arthaud a un peu plus de mal à apparaître plus sympathique parce que elle est vraiment dans la vulgate marxiste-léniniste de lutte ouvrière qui est dure, voilà, c'est de l'anticapitalisme dur et comme Philippe Poutou,
elle veut la révolution et elle veut renverser le système capitaliste.
Oui, c'est quand même ça le programme. C'est-à-dire qu'elle attend pas forcément le grand soir, elle veut la révolution de tous les jours, là aussi les luttes, et elle utilise très bien d'ailleurs cette élection, non pas pour être élue, elle-même se prépare pas du tout à être élue et n'y compte pas, mais comme tribune.
Elle se prépare à retourner au lycée où elle enseigne l'économie. Sur les réseaux sociaux, Jean-Massier.
Elle n'est pas à l'aise du tout. On retrouve là aussi un parti ancien, beaucoup plus habitué aux publications en noir et blanc, aux tracts à l'ancienne, remplis de textes. Très peu à l'aise du coup sur des formats comme Twitter, TikTok, YouTube. C'est pas sa cam. Ça se voit, ça se sent, et on sent que là aussi, elle va s'adresser à son public de cœur, les travailleurs, pas vraiment les internautes, pas vraiment les jeunes, les travailleurs.
Sur l'Ukraine, est-ce qu'elle n'a pas eu un peu tendance à renvoyer l'OTAN et la Russie dos à dos à certains moments dans la campagne, Marcelo Vesfahl?
Complètement, c'est d'ailleurs la difficulté pour elle, parce qu'elle a dénoncé les marchands d'armes et elle a renvoyé dos à dos le rôle de l'Occident et le rôle des Russes. Et quand on voit les images encore aujourd'hui terribles venant de cette guerre-là, on a du mal, l'équidistance est très difficile.
Sur ce point-là, Cécile Cornudet, c'est évidemment
oui, et puis c'est vrai qu'elle
quelque
est
chose
assez, assez différente du candidat d'avant, qui était, on avait parlé de 2017, de son coup un petit peu lors des débats. Elle, c'est vrai, c'est l'austérité, c'est le sérieux, c'est la lutte des classes, c'est ça qui l'importe. Elle parle d'inflation, d'indexation des salaires, elle ne se départit jamais de ça, et du coup, c'est assez austère.
Même dans la façon de s'exprimer et de faire passer les...
Oui, mais c'est devenu un style. Elle est plus souriante.
Donc, la guerre, c'est à cause du capitalisme. Le féminisme serait réglé si le SMIG était à 2000 euros. Enfin, serait réglé, non, mais c'est comme ça, c'est par le...
Et la pendule aussi, c'est à cause du capitalisme. D'accord. C'est comme ça. Allez. On en arrive à Éric Zemmour, ne me faites pas rire. Il était à Marseille hier. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne deux secondes sur sa visite dans les rues de la ville, et notamment sur ce marché informel où il a tenu des propos quand même assez particulièrement durs, en disant on a importé le tiers-monde, il faut nettoyer ces gens qui font tous les trafics, les renvoyer d'où ils viennent, nettoyer ces gens. Je ne sais pas si ça vous a interpellé ce vocabulaire.
Depuis 15 jours, depuis que la guerre en Ukraine l'a tué en fait politiquement, parce qu'il a pris un peu toute la foudre pour ses proximités poutiniennes, et on voit qu'il court après son électorat qui est en train de fuir en étant de plus en plus dur. Donc il a annoncé la création d'un ministère de la remigration s'il était élu. Il a été à la colline du crack la semaine dernière où déjà il avait tenu ce type de propos. Donc voilà, il est de plus en plus dur en espérant mobiliser son socle pour ne pas tomber trop bas, pour avoir un rôle à jouer dans la recomposition de la droite derrière, alors que sans doute ce qu'il a payé aussi, c'est un manque de stature. Donc il y a une sorte de contradiction entre les deux.
Emmanuel Macron a estimé que, quoi qu'ils en disent, lui et Marine Le Pen, c'était un tandem, Marcelo Vesfahl. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est une stratégie qui consiste à rediaboliser Marine Le Pen en la fusionnant avec Éric Zemmour. Maintenant, sur le fond, les deux vont peut-être devoir s'entendre parce que derrière, bon, d'abord il y a la présidentielle et ensuite derrière il y aura des législatives. Si ces deux candidats présentent partout des candidats l'un contre l'autre, ils seront pas très nombreux au Parlement. Donc ils auront sans doute besoin à un moment ou à un autre de se parler, et ça va être difficile parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mots violents qui ont été prononcés entre eux et des trahisons familiales. On pense au ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour.
Sur les réseaux sociaux, Jean-Marc.
Sur les réseaux sociaux, gros arsenal de guerre, grosse machine de guerre de la part d'Éric Zemmour et de ses équipes. Il a une véritable armée de jeunes internautes qui ont passé toute la campagne à essayer de placer Éric Zemmour et ses thèmes en top des tendances sur Twitter.
Avec des méthodes un peu radicales, par
avec des méthodes un peu radicales. On n'est pas loin du cyberharcèlement. On est surtout dans une culture du troll sur Internet. Il a réactivé ce truc qu'on avait un petit peu perdu avec le temps. Et donc voilà, c'est quelque chose qui risque pas de le faire gagner dans les sondages, mais ses militants on a l'impression qu'ils jouissent de simplement le voir monter comme ça sur des tendances Twitter. Et voilà, ils passent leur temps à spammer, comme on dit, Zemmour 2022. C'est à peu près tout ce qu'ils disent, pas grand chose de plus. Je note un élément de risque d'illégalité, puisqu'on a vu des publicités payées sur Facebook de la part de on ne sait pas très bien qui, mais ça, c'est strictement illégal.
Thomas Legrand.
Au départ, il devait tuer Marine Le Pen pour réunir la droite. Selon lui, Marine Le Pen empêchait la grande réunion de la droite qui était divisée depuis trop longtemps. Il devient en réalité l'idiot utile de Marine Le Pen, le très idiot utile de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il l'a banalisé, c'est ce qu'on a dit, j'ai trop cité l'autre candidate, j'avais pas le droit, tant pis. Il l'a banalisé et il lui fait maintenant une petite réserve pour la suite éventuellement.
Évidemment, avec possibilité de se rabibocher en cas de
une réserve d'électeurs.
Oui, absolument.
Et un fan club.
Et un fan club. Et voilà qui nous amène à Nicolas Dupont-Aignan, qui pourrait lui aussi peut-être faire équipe avec les deux autres. On se souvient de la campagne de 2017, Thomas Legrand.
Oui, bien sûr.
De ce qui s'était passé avec Marine Le Pen.
Entre les deux tours, il avait rejoint Marine Le Pen avec la promesse de, si Marine Le Pen était élue, de devenir le Premier ministre. Et il a porté ses 4 ou 5% à Marine Le Pen. Ça n'a évidemment pas suffi. Et cette fois-ci, Nicolas Dupont-Aignan a fait une campagne
toujours pareil, avec beaucoup de liberté sur la vérité factuelle, beaucoup de sous-entendus et
beaucoup de contestations des mesures liées à la crise sanitaire. Oui, il a même annoncé qu'il nommerait le professeur Raoult s'il était ministre de, qui pourrait être ministre de la Santé. Encore des allusions, effectivement, sur le fait que cette élection serait plus ou moins truquée, sincère.
Mais depuis, enfin, il ne fait que ça. Souvenez-vous, Notre-Dame, on nous dit pas tout. Les vaccins, c'est pas net. Il joue là-dessus. Et comme c'est quelque chose qui existe, Jean va pouvoir nous en parler aussi, assez fort sur les réseaux sociaux, ce rapport un peu trouble à la réalité. C'est quelque chose aussi qu'il a détecté chez les Gilets jaunes. Il joue sur ça. Et bon, ça lui rapporte les points qu'on lui donne en ce moment, c'est autour de 3-4% ou de 2-3%.
Oui, c'est ça. Nicolas Dupont-Aignan, c'est Trump sans les succès électoraux de Trump, c'est-à-dire qu'il assume un discours de radicalité, de fake news y compris. Il bénéficie du coup des réseaux anti-pass, voire anti-vax, qui sont très puissants sur Internet depuis des années, qui sont dans le complotisme le plus gras. Et lui, il assume complètement ça. Et son discours de remise en cause de la légitimité du scrutin, il parle de trucage de l'élection, c'est un discours qui risque de faire mouche auprès de toute une partie de la population qui rejettera le second tour Macron-Le Pen si jamais c'est ce second tour-là. Et peut-être que Nicolas Dupont-Aignan a un avenir politique sur ce marasme-là.
Et c'est peut-être pas un hasard si Florian Philippot l'a rejoint sur ce terrain-là, Marcel Westfred.
Tout à fait, il essaie de surfer sur ce courant-là. C'est pas simple, parce que ceux qui avaient essayé de surfer sur le courant Gilets jaunes n'avaient pas trouvé, on va dire, de traduction électorale, on s'en souvient, au moment des Européennes notamment. Donc là, Marine Le Pen, à un moment, elle avait fait une campagne autour des libertés chéries, etc. Mais est-ce que ces mouvements de contestation peuvent se traduire en suffrage? Ça, la question est ouverte.
En tout cas, c'est plus difficile des campagnes présidentielles, parce que comme il y avait deux autres candidats d'extrême droite dont on a parlé, il n'avait plus d'espace et il ne lui restait plus que ce microcosme anti-vax, gilet jaune complotiste. Sa principale mesure, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui était porté par les gilets jaunes. Donc, c'est quand même très réduit.
Alors, il y a peut-être des auditeurs de France Inter qui n'écoutent que France Inter et qui ne regardent pas les réseaux sociaux. Et s'ils ont entendu Nicolas Dupont-Aignan uniquement sur France Inter, ils l'ont pas entendu comme on vient de le décrire, parce qu'il a cette particularité, il s'adapte aux médias. Et là, sur France Inter, il était beaucoup, à chaque fois qu'il est venu, ça m'a frappé, il faisait attention à son rapport à la vérité, il était beaucoup moins extrémiste.
Dans ses vidéos Facebook, où là, il est face cam et il dénonce.
Oui, il s'adapte aux médias.
Le temps est révolu. On en arrive à Yannick Jadot, qui, allez, on va dire, aurait dû être porté par la question climatique. Alors, oui. Pour l'instant, on en est à des intentions de vote, hein. N'allons pas trop vite en besogne, mais effectivement, il n'arrive pas à se...
Non, il n'y arrive pas, alors même que le climat fait partie des urgences pour un pan de l'électorat, et notamment pour les jeunes, que l'on sait malheureusement très abstentionnistes, donc ça ne lui aura pas bénéficié. Il y a peut-être la malédiction de l'écologie politique en France qui ne parvient pas à faire comprendre sa crédibilité politique, un petit peu au municipal, mais pas beaucoup plus, pas à la présidentielle. En tout cas, en termes de numérique, il a placé le numérique au cœur de sa campagne électorale. Il n'en a pas fait une équipe séparée de l'équipe de relations presse ou d'autres types d'équipes. Il a lancé une chaîne Twitch, qui était une innovation intéressante, bien que tardive. Voilà, ça reste un outil qu'il aurait dû lancer bien plus tôt. Mais ça, c'est un truc qui pourra fonctionner auprès de quelques internautes.
Marcel Westfred, pourquoi il marque le pas, Yannick Jadot?
D'abord, il a pâti, on disait tout à l'heure, la primaire, parfois, c'est un boulet, et lui, il l'a expérimenté, puisqu'une grande partie de son temps médiatique, il l'a sacrifié à devoir répondre à ce que Sandrine Rousseau, arrivée deuxième, avec 49% des voix, lui faisait l'obliger à corriger le tir, donc ça, premièrement. Deuxièmement, sur l'écologie, mais finalement, il n'aura pas été très audible, hein. Il a eu une position, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a une position, quelque part, plus audible sur le nucléaire, par exemple. Peut-être que Yannick Jadot a cherché à faire quelque chose d'un peu plus pragmatique. Par exemple, il propose la sortie du nucléaire en 2035. Voilà, il a cherché aussi un discours de responsabilité, tout en ayant au sein de sa propre famille, des voix radicales qu'il devait étouffer, c'était très compliqué.
Cécile Cornudet.
Oui, peut-être comme un peu pour la candidate socialiste, on a l'impression que les deux restent traumatisés par les gilets jaunes, n'ont pas réussi à réconcilier l'écologie et le social, n'ont pas trouvé la formule magique pour ça, malgré la proposition d'un ISF climatique. Donc pour moi, c'est une des raisons qui explique ça. Et puis je pense qu'il a perdu aussi beaucoup de jeunes au profit du candidat de la France Insoumise, sur toutes les questions de genre, de discrimination. Il a voulu au départ mettre une vraie frontière avec Jean-Luc Mélenchon sur la question républicaine, mais du coup, il a pu perdre des jeunes pour qui c'est important, ces sujets.
Thomas Legrand.
Je pense que, confusément, beaucoup d'électeurs de gauche, socialistes ou écologistes, c'est à peu près le même électorat, c'est à peu près la même sociologie, en veulent, encore une fois, c'est la même réponse que pour la candidate socialiste, en veulent aux écologistes et aux socialistes de ne pas avoir su proposer une offre commune. Les écologistes ont encore besoin, ils ont besoin des socialistes pour asseoir une crédibilité sociale et régalienne de leur projet. Comme les socialistes ont besoin des écologistes pour nourrir à nouveau le projet social-démocrate, ils n'ont pas su proposer ça, c'est une faute historique pour l'instant. Ils le feront, c'est certain, ils ne renaîtront que comme ça. Ils ne l'ont pas fait à cette élection, ils en payent les conséquences pour aussi toutes les autres raisons que mes trois camarades ici ont dénoncé.
Et pourtant, Yannick Jadot, sur la question des lobbies avec l'affaire McKinsey,
sur Total Energy, sur tous ces
sujets-là, c'était ses sujets.
Bien sûr, malheureusement pour lui, l'environnement est passé de première ou deuxième préoccupation à troisième. Au départ, c'était la sécurité qui a envahi tout, et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Le sanitaire, voilà.
Alors, il en reste un. Est-ce que vous avez suivi? Vous savez lequel c'est?
Oui, c'est Lassalle.
C'est Jean Lassalle.
Ah, c'est pas le plus simple à commenter.
Mais oui. Mais ce matin, sur l'antenne de France Inter, il a expliqué qu'il enlèverait la Coupe du Monde au Qatar pour la rapatrier en Europe s'il était président, parce que c'est très dangereux de climatiser les stades. Il a pas tort. Il a pas tort, Jean Lassalle.
Jean Lassalle, c'est un candidat très particulier de cette élection présidentielle qui, paradoxalement, vient crédibiliser tous les autres. C'est un peu la particularité sur Internet. Il bénéficie d'une image débonnaire. On l'aime bien, Jean Lassalle. C'est un côté un petit peu paternaliste d'ailleurs de la part de beaucoup d'internautes. Il a une très forte identification, ceci étant. On sent que lui n'aime pas plus les réseaux sociaux que ça. Lui, ce qu'il aime, c'est les embrassades physiques, c'est le rapport au concret. La campagne électorale, pour lui, ça a été un grand moment d'embrassade, de bain de foule, de serrage de main, de claquage de bise. C'est un peu un anti-héros positif. Ça peut lui permettre de racler quelques voix de gens qui hésitaient à voter blanc, par exemple, des contestataires qui vont dire non, mais je vais voter Lassalle, ça enverra le même message.
Cécile Cornudet, vous êtes d'accord avec Mercier?
Tout à fait. Il y a une sympathie et peut-être liée au fait qu'on ne comprend pas très bien forcément ce qu'il propose non plus. Il y a un message un peu général en faveur de la ruralité, de l'État et de la liberté aux communes. Moi, c'est ça à peu près que j'ai compris. Il a eu un petit moment de gloire quand TF1 a fait son émission où il n'était pas invité parce qu'ils n'invitaient pas les petits candidats. Le lendemain, il a dit « je vais peut-être arrêter la campagne ». Donc, ça a fait un peu d'articles sur lui. C'était à ce moment-là. Moment, ouais. Et puis, deux jours après, il a dit « non, mais en fait, je reste quand même dans la campagne » parce qu'il voyait que ça l'avait fait un peu monter dans les sondages. Mais voilà.
Alors, on n'est peut-être pas au bout des annonces parce que figurez-vous qu'on a reçu un communiqué tout à l'heure. Jean Lassalle va faire une annonce ce soir au Parc des Expositions de Pau à 19h30. Et je vous cite le communiqué. Pour la première fois, un candidat à la présidence va se contraindre juridiquement au respect de ses promesses fondamentales de campagne.
C'est-à-dire?
Il va écrire un contrat, j'ai pas compris.
Moi non plus.
Non, on ne comprend pas toujours.
On attend de savoir exactement ce qu'il en est.
Il était l'invité hier matin de France Inter, Karine Bécart et Delvaux.
Éric Delvaux,
et c'était sympathique. C'était pas toujours très clair, mais c'était sympathique. En fait, quand on l'écoute, on se dit qu'on déjeunerait bien avec lui sur une terrasse dans une cour d'une ferme.
Il y a des sondages même qui ont été faits là-dessus.
Exactement, il arrive premier, figurez-vous, dans les sondages, notamment pour
partager un barbecue.
Du Béarn, moi j'irais bien passer un repas avec lui, pour parler de la ruralité d'ailleurs, et pour parler de... C'est un élu local intéressant.
C'est quelqu'un qui a une très longue carrière politique.
Un de ceux qui a eu le plus de parrainage. Il y a beaucoup de maires ruraux
Au demeurant, ça nous rappelle l'absence un peu des enjeux de la ruralité dans cette campagne. C'est aussi ça que ça désigne. Malheureusement, Jean Lassalle devient le porte-parole d'enjeux qui sont assez mis sous le tapis par les
autres candidats. Oui, mais quand il n'est pas très clair, c'est dommage.
Et donc, paradoxalement, il ne participe pas beaucoup à redorer le blason de la ruralité auprès des yeux de beaucoup d'urbains. Et c'est un peu un problème, je pense.
En tout cas, c'est la plus belle voix, le plus beau timbre de la campagne.
Et le plus bel accent.
L'accent rugbystique.
on va dire ça comme ça, élu depuis 1977, hein, quand même, Jean Lassalle. Ça fait quand même un bail qu'il est élu. Cette émission est pratiquement terminée. Allez, on va en 10 secondes. Il reste moins d'une semaine de campagne. Tout peut arriver, Marcelo Welfred.
C'est le moment où chacun va jeter ses dernières forces. Après, le temps de l'égalité de temps de parole fait de toute façon les dynamiques risquent de se renforcer et je vois pas les cartes être rebattues pour autant.
Et ben voilà, merci beaucoup à tous les quatre, c'est déjà terminé, c'est fini.
cette élection, mes amis.
Il fallait que ce soit un coup d'éclat.
Mais c'est une campagne de merde.
Gagner.
Jusqu'à changer le monde.
La victoire.
C'est pas qu'une personne.
Et vous tous.
Vive la République. Vive la liberté.
Vive l'écologie.
Et surtout.
Vive la France.